Et là, nous allons lire les versets 1 à 7. 1 Samuel 5, versets 1 à 7. Il est écrit, « Après s'être emparés du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Ébénézer à Ashdod. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Ashdod découvrirent Dagon étendu par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Sa tête et ses deux mains coupées gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple à Ashdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Amen. » Et le second texte dans l'Évangile selon Luc. Donc, pour rappel, il n'y a qu'un seul Évangile rapporté par quatre auteurs différents, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 19. Et là, nous allons lire les versets 1 à 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Il disait, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Amen. Ça vous est déjà certainement tous arrivé une fois de vivre avec quelqu'un ou avec quelque chose, et puis un beau jour de découvrir quelque chose que vous ne saviez pas sur cette personne ou sur cette chose avec qui vous viviez. Et vous découvrez cette chose et c'est une surprise, mais une surprise positive. Vous vous dites, tiens, ben, je le savais pas, mais je suis content de le savoir. J'ai connu cette personne-là pendant des années et on s'est fréquenté, mais je ne savais pas cet élément-là. Et quand je l'apprends, ah, ça me fait plaisir. C'est une agréable surprise. Alors, ça vous est déjà peut-être arrivé d'avoir un objet et de ne pas savoir qu'il a une certaine fonctionnalité. Vous avez, par exemple, eu une voiture et vous ne saviez pas que votre voiture avait un cruise control, par exemple. Vous ne saviez pas, vous l'avez acheté, vous rouliez avec, mais oh tiens, une fonctionnalité, je ne savais pas, j'étais pas au courant. Alors, vous avez un GSM et vous vous dites, oh, j'aime bien mon GSM, il est très beau, et un beau jour, par hasard, vous vous rendez compte que votre GSM sait faire un truc que vous ne saviez pas. Et vous êtes content, vous vous dites, bah tiens, j'étais pas au courant. Il y a quelque temps, j'ai découvert que mon GSM calculait automatiquement le nombre de pas que je faisais. Je ne le savais pas. Donc je n'ai rien fait, je n'ai pas appuyé sur un bouton, j'ai vu qu'il comptait mes nombres de pas. Et comme je marche beaucoup, ben, ça me permet de voir, c'est une fonctionnalité intéressante. Et ce matin, j'ai découvert que mon GSM savait faire une vidéo en fonction des photos que je faisais. Donc si par exemple je fais aujourd'hui des photos de vous, plein de photos, eh bien il sait faire une vidéo tout seul où il fait passer les images et même une petite musique et voilà, j'ai une vidéo. Donc je le savais pas, mais oh, c'est intéressant. Ou alors ça vous est déjà peut-être arrivé de vivre avec une personne et puis de découvrir un talent caché qu'il a. Oh, je savais pas que tu savais faire ça. Ah, tu sais jouer un instrument, hein, tu as été à l'armée, hein, tu sais faire ça. On est content de découvrir quelque chose qu'on ne savait pas. Ou peut-être mieux, vous viviez et puis vous découvrez que vous avez droit à quelque chose, mais vous ne le saviez pas. Par exemple, vous avez plus de 65 ans et vous avez droit au bus gratuit, mais vous ne le saviez pas. Francis, il n'a pas plus de 65 ans, donc ça ne le concerne pas. Mais ceux qui ont plus de 65 ans, eux, ils ne sont pas au courant. Oh, ben tiens. Ou alors j'ai droit à une ristourne, j'ai droit à un remboursement, mais je ne le savais pas. Tellement de cas dans lesquels on peut découvrir quelque chose qu'on a, mais on ne savait pas ce que ça pouvait faire. Et dans le premier texte que nous avons lu, le texte d'1 Samuel, voilà que, en réalité, les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Alliance, qui est cet objet sacré pour le peuple, ils l'ont pris chez eux et ils l'ont mis dans le temple de leur dieu, d'un idole, d'un faux dieu, de Dagon, comme on l'appelait, c'était le dieu des Philistins, et effectivement, un dieu complètement païen, un dieu, comme la Bible dit, qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, une idole. Et alors que les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance et qu'ils l'ont mis dans le temple de l'idole, ils arrivent un premier matin et ils se rendent compte que l'idole est tombée par terre. Et puis le deuxième jour, ils reviennent encore une fois, l'idole est tombée par terre, mais elle a carrément les bras coupés. Ils avaient cette arche de l'Alliance, c'était un objet qu'ils connaissaient, ils savaient que ça avait une puissance, ils savaient que c'était un objet important. Et Gino vous a décrit ce qu'il y avait dedans la dernière fois, la taille, tout le bazar. Mais donc, ils l'avaient, cette arche-là, mais ils ne s'imaginaient pas de tout ce que ça pouvait faire, tout ce que ça pouvait créer, de toute la puissance qu'il y avait dans cette arche-là. Cette arche était tellement puissante, ou ce coffre était tellement puissant qu'il a eu la capacité de faire ployer Dagon par terre. Ce dieu qui était respecté par tout le peuple se retrouve par terre, méprisable, insignifiant, devant le coffre de la présence de Dieu. Ce grand, imaginez-vous dans votre tête, ce grand dieu ce grand faux dieu qui était adoré par tant de gens, qui se retrouve par terre comme une simple pierre cassée, c'est par l'effet de la présence de Dieu, par l'effet de la grâce de Dieu. Et pour nous, enfants de Dieu, un grand écueil dans lequel nous pouvons tomber, et dans lequel nous tombons parfois, c'est que nous sommes en relation avec le Christ, nous vivons avec le Christ, nous avons une relation avec le Christ, nous entendons le Christ, nous parlons du Christ, mais nous oublions parfois la puissance qu'il y a dans le Christ. Nous perdons de vue la puissance qu'il y a dans la personne du Christ, dans la relation que nous avons avec lui, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans l'autorité que Dieu lui a donnée. Il dit, en quittant la terre, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça, c'est la parole du Christ. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous connaissez ce texte qui dit que Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse et tout. Voilà, ça c'est la puissance du Christ avec qui nous sommes en relation. Ce n'est pas un petit Christ insignifiant, incapable, méprisable. On dit bon, oui c'est Christ. Il n'est plus le Christ sur la croix, cloué, il est le Christ ressuscité, le Christ vivant, le Christ puissant. Et nous avons le risque où nous pouvons vivre en relation avec Christ, mais en oubliant que, waouh, je ne savais pas qu'il y avait une telle puissance dans le Christ. Et ça peut nous amener à être tellement, tellement déprimés, tellement pas content, c'est-à-dire que oui, je suis chrétien, bon, voilà quoi, je suis chrétien. Et on oublie que, waouh, quelle grâce, quelle puissance qu'il y a d'être en relation avec le Christ. En quatre points, la puissance du Christ. Premièrement, en Christ, il y a une puissance de salut. En Christ, il y a la puissance du salut. Romains, l'apôtre Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiquiconque croit. » L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire que dans l'Évangile, dans la personne dans la présence de l'évangile, il y a la possibilité du salut de quiconque croit sur terre. Christ a permis dans sa personne, dans sa mort, de sauver quiconque croit. C'est par l'évangile que les gens découvrent qu'ils sont pécheurs. Il n'y a pas d'autre livre sur cette terre qui dit aux gens qu'ils sont pécheurs. C'est par l'évangile que les gens découvrent qu'ils sont pécheurs. C'est par l'évangile que les hommes découvrent qu'ils sont aimés par un Dieu d'amour. Il n'y a pas d'autre livre qui dit ça que les hindous, les bouddhistes, on ne parle pas d'un Dieu d'amour qui nous aime. C'est par l'évangile que les hommes, les femmes découvrent qu'ils sont aimés par un Dieu d'amour. C'est par l'évangile que nous est révélé le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. C'est par l'évangile que nous découvrons qui est notre sauveur. Il y a une puissance dans l'évangile, une puissance pour le salut de quiconque croit. En réalité, l'évangile, c'est le déploiement de la puissance, de la grâce de Dieu. L'évangile annonce au monde ce déploiement, ce dévoilement de la grâce de Dieu qui est disponible pour quiconque croit, pour quiconque s'approche de lui, pour quiconque met sa confiance en Christ. En Christ, il y a une puissance de salut. Jésus sauve. Jésus sauve. Et nous avons à dire ça. L'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Je n'ai pas honte de l'évangile. Et nous devrions être des hommes et des femmes qui sont conscients de la puissance du message que nous avons. Jésus sauve. Jésus sauve celui qui croit en lui. Jésus sauve celui qui place sa confiance en lui. Parfois, quand on nous voit vivre, nous les chrétiens, on a vraiment l'impression qu'on est des huissiers de justice, quoi. C'est-à-dire, vraiment, ceux qui doivent annoncer une très mauvaise nouvelle. Écoutez, je dois vous dire, j'aimerais pas vous le dire, mais Jésus vous donne la vie éternelle. J'aurais voulu ne pas vous le dire, mais on dirait des huissiers de justice, des pauvres gens qui ont une très mauvaise nouvelle à annoncer. Alors que nous avons en nous la plus belle des nouvelles à annoncer, la plus belle des lettres à déposer dans le cœur des gens. C'est que Jésus sauve, et ça doit nous remplir d'assurance. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Combien de fois ça ne m'est pas arrivé dans les années passées, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, oui. Quand j'étais dans le bus, avec ma Bible, je me dis, faut peut-être pas que je la mette comme ça, sinon on va bien voir que c'est une Bible. On a honte, on a l'impression d'être des gens bizarres, alors que nous avons une bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Christ, c'est le déploiement de la puissance de la grâce de Dieu, la puissance du salut. Et Zachée a vécu cette puissance-là, comme on l'a lu dans le deuxième texte. Zachée a rencontré ce Christ qui est une puissance de salut. Et un petit peu comme l'Arche de l'Alliance, Zachée ne prévoyait pas ce qui allait lui arriver lorsqu'il entrerait en relation avec le Christ. Il y a eu des conséquences. Il n'avait pas prévu ce qui allait lui arriver. Il voit Jésus qui arrive. Jésus est connu. Beaucoup de gens le connaissent. Il est en train de marcher et il monte sur le sycomore pour le voir. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment le voir. Il monte. C'est un petit arbre, un sycomore. Hein, c'est pas comme un saule pleureur. Mais donc il monte sur le sycomore pour voir Jésus. Et à partir du moment où il cherche à voir Jésus, il se passe des choses extraordinaires dans sa vie. Le déploiement de la puissance de Dieu. Alors c'est vrai que la mer ne s'est pas coupée en deux, sa maison ne s'est pas envolée, il n'a pas commencé à se mettre en lévitation, non. Mais parce qu'il a regardé à Jésus, sa vie n'a plus été la même. Premièrement, il entend Jésus lui dire « Zachée, il faut que j'aille dormir chez toi aujourd'hui ». Donc Jésus, le maître le plus connu de la région à l'époque les gens l'aiment encore beaucoup, il a encore beaucoup de succès. Jésus voit Zachée, imaginez-vous sur ce sycomore et que Jésus vous dise, Zachée, aujourd'hui c'est chez toi que je vais aller dormir. J'ai un rendez-vous avec toi, Zachée. Et Zachée va accueillir Jésus dans sa maison et quand il va accueillir Jésus, sa vie ne sera plus jamais la même. sa vie ne sera plus jamais la même, puisqu'il va commencer par se repentir et il va dire « je donne la moitié de mes biens aux pauvres ». En réalité, il y a dans le texte de Luc 19 une subtilité, c'est qu'il parle au présent. Il dit « je donne la moitié de mes biens aux pauvres, si j'ai pris à quelqu'un, je lui rends ». Et donc ça donne l'impression que c'est son habitude. Mais en réalité, quand on lit le contexte, quand on lit la péricope, on se rend compte qu'en fait, non, c'est la décision qu'il prend sur le moment. Alors qu'il rencontre Jésus, alors que Jésus vient le rencontrer, il dit « Seigneur, maintenant je rends à celui à qui j'ai pris et je donne la moitié de mes biens aux pauvres ». À partir du moment où Zachée fait ses rencontres avec Jésus, sa vie a changé. Il se repent, il accueille Jésus chez lui. Et alors, bien plus que Jésus ne vienne chez lui, Jésus lui dit carrément « aujourd'hui, Zachée, le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré dans ta maison. » Et effectivement, vous avez compris que Jésus, ça signifie Dieu sauve. Et donc, en réalité, Jésus est entré chez lui, mais le salut est entré dans sa maison. Il voulait juste voir Jésus, lui. Il n'imaginait pas la puissance qui allait se déployer du simple fait qu'il cherche à voir Jésus. Et bien plus encore, lorsque Zachée accueille Jésus, Jésus va lui dire, va dire, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Zachée qui est un homme méprisé, le texte le dit. Un homme qu'on n'aime pas, un homme qu'on insulte, un homme qu'on ne veut pas voir. Il se retrouve valorisé par Jésus qui lui dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Celui qui n'était aimé par personne se trouve aimé par le Christ parce qu'il l'a accueilli chez lui. Il y a dans le Christ une puissance de salut. Cette puissance de salut, c'est aussi une puissance d'attraction. Jésus attire les hommes à lui. Même si nous ne nous en rendons pas compte, il y a dans le Christ, dans le salut du Christ, une puissance d'attraction. Il dit, et moi, c'est Jésus qui parle dans Jean 12, 32, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Alors, c'est vrai que c'est une parole qui peut sembler, mais imaginez la puissance d'attraction qu'il y a dans le Christ. J'attirerai tous les hommes à moi. Et quand il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, ça fait non seulement référence à la manière dont il va mourir sur une croix, mais ça fait aussi référence au fait qu'il va ressusciter. Lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y a donc dans le Christ une puissance qui attire les hommes vers lui. Et si les hommes ne vont pas à lui, c'est parce qu'ils résistent. C'est parce que leur cœur est endurci, parce que leur cœur est fermé à la puissance du Christ. Jésus provoque l'attraction de tous les hommes vers lui. Une puissance de salut. Ça veut dire que le combat n'est pas d'attirer les gens à Jésus. Le combat est simplement de leur proclamer cette bonne nouvelle. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui convainc de péché, de jugement, de justice. Dans le Christ, il y a une puissance de rassemblement aussi. Parce que lorsque le Christ attire des hommes à lui, des hommes et des femmes à lui, ces hommes et ces femmes deviennent un seul peuple. Et dans ce peuple-là, il y a un petit peu de tout. Il y a des hindous, il y a des Européens, il y a des Africains. Donc il y a dans le Christ une puissance de rassemblement. Christ rassemble autour de lui un peuple qui devient le sien. De toute langue, de toute nation, de toute tribu, de toute... Christ a ce pouvoir de rassembler les hommes et les femmes. Hier, à la réunion des délégués, le frère disait que lorsqu'il y a eu cette fameuse guerre civile entre les Hutus et les Tutsis, eh bien, les églises évangéliques, c'est dans quel pays, ça? C'est dans le Burundi, ça? Burundi? Eh bien, c'était, les églises évangéliques étaient les seuls endroits où les Hutus et les Tutsis pouvaient être ensemble. Parce que dans le Christ, il y a cette puissance de rassembler des gens de langues différentes, des gens de rang social différent, des gens d'éducation différents. C'est ça la puissance du Christ, de rassembler. Deuxièmement, dans le Christ, Jean-Pierre m'a dit que je vais finir plus tôt pour ceux qui doivent aller voter. Si vous devez aller voter encore après, vous n'êtes vraiment pas sérieux. Moi, j'ai été voté avant. Bon, je ne vais pas demander qui doit encore aller voter, sinon tout le monde va voir que vous n'êtes pas sérieux. Mais bon, deuxièmement, il y a dans le Christ une puissance de délivrance. Jésus libère. Jean-Pierre parlait de la rédemption par laquelle on paye un prix et ce prix libère celui qui était retenu par son péché. Eh bien, Christ, lorsque nous sommes rachetés par le Christ, lorsque nous vivons cette rédemption, nous sommes non seulement pardonnés, mais en plus nous sommes rachetés de l'esclavage du mal et du péché. Nous sommes rachetés de l'esclavage du mal et du péché. Nous sommes arrachés à cette puissance du mal, du péché, de Satan qui nous tient captifs par la puissance de la relation avec le Christ. Imaginez le bonheur d'un homme qui est emprisonné et à qui on dit, ben voilà, aujourd'hui tu peux sortir. Aujourd'hui tu peux sortir. C'est ça notre vie, c'est que nous sommes libérés, nous sommes délivrés par le Christ. Et ce n'est pas seulement une délivrance spirituelle, puisque nous sommes, oui, spirituellement délivrés, mais cette délivrance spirituelle va aussi se manifester concrètement, petit à petit, dans notre vie, pour nous libérer de nos esclavages présents. Nous pouvons être esclaves de la culpabilité, se sentir coupable. On peut être esclave de la convoitise sexuelle. On peut être esclave de la convoitise des biens. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. On peut être esclave de l'argent, évidemment. Esclave de la jalousie. Ça ne se voit pas, hein. Quelqu'un qui est esclave de la jalousie, il a l'air très bien. Mais la jalousie, ça détruit des familles. La jalousie, ça détruit des peuples entiers. Esclave de la jalousie. On peut être esclave de la médisance. On peut être esclave de l'occultisme. Esclave de la rancune. Jamais je ne pardonnerai. On peut être esclave d'une éducation complètement déficiente. On peut être esclave. Eh bien, dans le Christ, nous recevons la délivrance de nos esclavages. Il y a une puissance dans le Christ de délivrance de nos esclavages. Jean 8, 36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a une puissance de délivrance. Être affranchi, c'est être capable de vivre sans être esclave de nos passions et de nos désirs. Être affranchi, c'est être capable de ne plus vivre sous la culpabilité, sous le poids de la honte. Être affranchi, c'est ne plus vivre sous l'oppression des esprits impurs. Être affranchi, c'est ne plus vivre sous l'influence de la superstition. Délivré. Être affranchi, c'est être capable de sortir de nos petits sentiments humains, la jalousie, la rancune, la médisance, l'esprit de compétition, pour être capable d'aimer vraiment, réellement, pour être capable de pardonner, d'aimer nos ennemis, d'aimer le faible. Être affranchi, c'est être délivré de nos angoisses, de nos peurs qui nous oppriment. Il y a dans le Christ une puissance pour nous délivrer, pour nous délivrer. Troisièmement, il y a dans le Christ une puissance de restauration et de guérison. Si on lit le psaume 147, versets 2 à 3, ou verset 3, il est écrit « L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. En Christ, nous avons aussi l'accès à une guérison de nos âmes, à une guérison de nos cœurs, à une guérison de nos vies. Nos vies peuvent être tellement abîmées par la vie. Des vies abîmées. Abîmées par nos relations, abîmées par ce qu'on nous a fait, abîmées par notre péché, abîmées par ce qu'on a fait aux autres, abîmées par ce qu'on a subi, abîmées par les erreurs qu'on a commises. Nos vies peuvent être abîmées. qu'on soit chrétien ou pas, des vies abîmées peuvent être restaurées par le Christ. Et ça ne veut pas dire que c'est baguette magique du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il y a une œuvre dans notre vie, une œuvre de restauration que Dieu mène. Dieu mène une œuvre de restauration dans ta vie. Encore faut-il lui laisser faire. C'est aussi la guérison de nos blessures. Une blessure suite à un deuil, une blessure suite à une rupture affective, une blessure suite à une déception, une rupture suite à une trahison, une blessure suite à un accident, une blessure due à un conflit. Eh bien, le Christ veut démarrer en nous une œuvre de guérison, une œuvre de restauration. Le psaume dit « Il envoya sa parole et sa parole l'est guérie ». Il envoya sa parole et sa parole l'est guérie. Le Christ restaure des vies brisées, c'est-à-dire qu'il restaure notre espérance. Il restaure notre capacité à voir qu'il y a un avenir. Il y a un avenir. Il reconstruit notre espérance. Quel que soit ce qu'il y a aujourd'hui, il y aura un demain. Même si aujourd'hui c'est la nuit, demain il fera beau. Il reconstruit notre espérance. Notre espérance de la vie éternelle, bien sûr, mais aussi notre espérance pour notre vie. Quand elle a été abîmée, quand elle a été salie, lorsqu'elle ne va pas bien, Christ nous redonne une espérance, une raison de croire que demain, il y aura mieux. Et vous connaissez ce merveilleux texte, on pourrait le chanter tous les dimanches. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Christ fait naître en nous cette espérance, cette capacité à voir plus loin. Christ nous redonne du courage, de la force. Christ peut aussi redonner un but à notre vie. Lorsque nous sommes arrivés à un moment où on dit « Écoute, moi, là où j'en suis, moi, j'attends la mort. J'ai rien d'autre à faire. Je n'ai pas d'autre but. » Christ peut nous redonner un but pour notre vie. Christ veut aussi restaurer l'image que nous avons de nous-mêmes. L'image que nous avons de nous-mêmes. L'image que nous avons de nous-mêmes, elle nous est renvoyée par ce que les gens disent de nous, par les attitudes que les gens ont vis-à-vis de nous. On n'a pas une image de soi qui est construite par soi tout seul. On a une image de soi qui correspond à ce qu'on a dit de moi, à ce qu'on m'a dit à moi, à la manière dont on m'a vu, dont on m'a parlé, dont on s'est conduit envers moi. Et parfois, cette image peut être tellement déconstruite parce que finalement, on se voit comme les gens nous ont vus. Mais on peut réellement vivre cette crise qui reconstruit notre image de nous-mêmes, qui guérit nos blessures, qui nous soulage de notre inquiétude, de notre angoisse. Christ qui transforme notre chemin de vie, qui nous réoriente. Tu as fait comme ça pendant des années, c'est très bien, mais maintenant tu vas aller par là, parce que là-bas, il y a pour toi des eaux paisibles, parce que là-bas, il y a pour toi des verts pâturages. Nous avons en Christ la possibilité d'entrer avec celui qui veut et qui peut restaurer, qui peut reconstruire nos vies brisées. Et comme l'église de Jumet le dit tout le temps, ça ne vient pas de moi, Dieu travaille dans les coulisses. Je vous laisse cette parole, c'est pas moi qui le dis, mais c'est peut-être vrai. On ne le voit pas. Macroscopiquement, il ne se passe rien, mais Dieu est en train de travailler. Et puis, quatrièmement, il y a dans le Christ une puissance de transformation. Christ transforme des vies. Regardez Zachée, il était juste parti pour regarder ce monsieur qui passait et voilà que sa vie est changée tout de suite. Sa manière de vivre est changée, son regard qu'il a sur lui-même est changé. Puisqu'on se moquait de lui, on disait qu'il était un pécheur, un publicain, un homme débauché. Mais Christ lui dit « Non, non, tu es un fils d'Abraham ». Ça change l'image qu'il a de lui. Il y a dans le Christ une puissance de transformation. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est une réalité spirituelle qui doit se concrétiser dans notre vie, une nouvelle vie. Du temps de Francis et moi, quand on était jeunes, Francis, n'est-ce pas qu'on disait, qu'est-ce qu'on disait ? Jésus dans ton cœur ? Voilà ! Jésus dans ton cœur, révolution dans ta vie. Ah oui, et c'est bien vrai. Et c'est ce que Zachée a vécu. Révolution dans sa vie. Christ aussi nous amène à pouvoir changer, à nous transformer. Christ transforme premièrement nos dispositions intérieures. C'est-à-dire que nous étions des hommes et des femmes qui n'en avions rien à faire de Dieu, et tout à coup nous devenons, quand nous devenons chrétiens, nous devenons des gens qui ont des dispositions intérieures pour chercher Dieu, pour vouloir lui être agréable, pour chercher sa volonté. Notre cœur change. Ce qu'il y a en nous se tourne vers Dieu pour le chercher. Christ renouvelle nos pensées, toutes ces pensées qui sont souvent en nous. Je vous avais donné un exemple, c'est toujours le même exemple que je donne, c'est pas grave, c'est parce que c'est le seul que j'ai. Mais ce monsieur qui me disait qu'un conjoint, c'est comme une cigarette, une fois que tu as fini de le fumer, tu le jettes. Oui, mais ça peut paraître marrant comme ça, mais il y a des gens qui vivent avec cette idée, cette pensée-là dans leur tête. Il y a des gens qui vivent en se disant « Il faut faire souffrir pour avancer. Donc si je veux avancer dans la vie, il faut que je fasse souffrir. » Évidemment, ce n'est pas dit, mais c'est dans notre tête. Des pensées qui nous indisposent et qui nous empêchent de vivre pleinement. Des pensées, la gentillesse, c'est pour les faibles. Christ transforme nos pensées. Et puis, aussi, Christ transforme nos relations et notre mode de vie. Si vous lisez les épîtres de Éphésiens et de Colossiens, qui sont donc deux épîtres de l'apôtre Paul, ce qui est particulier, c'est qu'elles sont construites de la même façon toutes les deux. C'est-à-dire que l'apôtre Paul commence par décrire notre nouvelle relation en Christ, notre salut, notre grâce, comme on l'a lu avec Monseigneur Jean-Pierre, le salut, la justification, la grâce, tout ça. Au début des épîtres, il commence par là. Et puis à la fin, il en arrive aux conséquences pratiques. Les deux sont construits de la même façon. Au début, il parle de la grâce et puis il en arrive à des choses très très concrètes. Notre mode de vie et nos relations. Et donc, dans Éphésiens et dans Colossiens, il nous est parlé de la façon dont Christ change nos relations. Au début, on nous présente ce que nous sommes en Christ, et à la fin, on en arrive à lui, puisque nous sommes ça en Christ, voilà comment doivent être nos relations maintenant. Donc, Christ transforme aussi la façon dont nous entrons en relation avec les autres. Les époux sont appelés à aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église, par exemple. On ne se rend pas compte, mais c'est un commandement extraordinaire de la parole de Dieu. Où est-ce que vous avez déjà vu ça dans un livre qu'on vous parle de ça? Qu'on vous dit que les époux doivent laver les pieds de leurs épouses? C'est une révolution dans le monde, ça. Nous vivons avec la Bible comme si c'était normal. Ah oui, Marie, aimez vos femmes. Christ transforme les relations. Dans ces mêmes textes, il est dit aux enfants de respecter leurs parents. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une révolution. On ne connaît plus ça. Il y a une transformation des relations familiales par le Christ. Dans ce texte-là, on nous dit que les ouvriers doivent respecter leurs patrons. Dans ce même texte, il nous est dit que les patrons doivent bien traiter leurs employés. Donc vous voyez que ce que nous sommes en Christ a un impact sur nos relations. Je sais lire en toi, Jean-Pierre. Mais de toute façon, écoute, t'inquiète pas, hein, ils m'en voudront à moi, pas à toi. Toi, t'es gentil. Moi, je m'en fiche. Bon. Alors, Et aussi, Christ change notre mode de vie. Lorsque nous rencontrons ce Christ, il nous permet, par exemple, de vivre dans l'amour. C'est un changement de mode de vie. Notre vocabulaire change. Notre façon de parler, les expressions que nous utilisons. Notre comportement va changer. Notre vie aussi, nous allons prier, nous allons nous ouvrir à la vie de Dieu. Notre mode de vie va changer, la façon dont nous vivons va changer par le Christ. Conclusion. Premièrement, Gardons confiance dans la puissance du Christ pour sauver, pour délivrer les captifs, pour restaurer les vies brisées et pour nous transformer. Gardons confiance dans la puissance du Christ. Il n'est pas un Christ impuissant, insignifiant dans le tombeau, il est le Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu, capable de sauver encore aujourd'hui, capable de restaurer encore aujourd'hui, capable de délivrer encore aujourd'hui. Deuxièmement, amenons d'autres personnes auprès de Jésus pour qu'ils expérimentent cette puissance, pour qu'ils vivent cette restauration, pour qu'ils vivent cette délivrance. Et puis troisièmement, laisse Christ faire plus dans ta vie. Laisse Christ faire plus dans ta vie. Ce Christ puissant, ce Christ vivant, il veut aujourd'hui encore agir dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous transformer. Laissons-le agir davantage. Laissons-le davantage nous toucher dans sa parole, dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans la communion fraternelle. Laissons-le davantage agir dans nos vies. Et pour terminer, il est 55. Donc il y a encore une heure pour aller voter, pour ceux qui doivent encore aller voter. Pour terminer, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est les premières paroles que Jésus a proclamées dans son ministère. Lorsqu'il est entré dans la synagogue, il a ouvert le rouleau et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. » Donc il est ce Christ puissant, vivant, présent. Laissons-le davantage agir dans nos vies. Amen.